Chapitre 16. Torture. Mais la princesse volontaire ne voulait se satisfaire de rien d'autre que monter les talons pis à la chasse. Toutes ses dames de compagnie la mirent en garde, mais elle détourna la tête et ne leur prêta point l'oreille. Tous ses seigneurs la mirent en garde, mais elle se moqua de leurs craintes. Même le maître d'écurie s'efforça de la décourager en lui disant « Dame princesse, cet étalon devrait être tué dans le sang et le feu, car il fut dressé par Matois du Vif, et à lui seul il est fidèle. » Alors la princesse entra en courroux et répondit « Ne sont-ce pas là mes écuries et mes chevaux, et n'ai-je pas le droit de choisir laquelle de mes bêtes monter ?» Tous se turent devant son ire, et elle ordonna qu'on scellât les talons pis pour la chasse. L'équipage se mit en route dans de grands abois de chiens et virevoltes d'oriflamme, et l'étalon pis la porta bien, l'emmena loin devant dans les champs, si loin qu'elle disparut à la vue des autres chasseurs. Alors, une fois la princesse volontaire à l'écart, par-delà les collines et sous les arbres verdoyants, l'étalon pis la conduisit de ci, de là, tant et si bien qu'elle en fut égarée, et que le clabot des chiens ne fut plus qu'écho dans les vallons. Enfin, elle s'arrêta près d'un ru frais pour s'y désaltérer, mais, quand elle se retourna, voici que l'étalon pis avait disparu, et qu'à sa place se tenait Matois du Vif, aussi tacheté que sa bête de vif. Alors, il la prit comme l'étalon prend la jument, si bien qu'avant la fin de l'an, elle devint grosse, et quand ceux qui assistaient à la naissance virent l'enfant, tout tacheté du visage et des épaules, ils s'exclamèrent d'effroi. Et quand la princesse volontaire le vit à son tour, elle cria, et son âme s'échappa dans le sang et l'humiliation, car elle avait porté l'enfant de vif de Matois. Ainsi naquit le prince Pi, qui, par sa naissance, apporta au monde la terreur et la honte. La légende du prince Pi. La torche qu'avait laissée royale faisait danser l'ombre des barreaux. Je restais quelque temps à la contempler. L'esprit vide, sans espoir. La conscience de ma mort prochaine m'engourdissait l'entendement. Puis, peu à peu, mon esprit se remit en route, mais dans la plus grande confusion. Ketriken sans cheval. Était-ce de cela qu'Imbre avait tenté de me prévenir? Que Royal savait-il à propos des chevaux? Était-il au courant de la destination de la reine? Comment Burik avait-il évité de se faire repérer? Mais y était-il parvenu en réalité? Ne risquais-je pas de le croiser dans la salle de torture? Royal soupçonnait-il Patience d'avoir pris part au plan d'évasion? Dans ce cas, se contenterait-il de l'abandonner à Castelserre, ou chercherait-il une vengeance plus directe? Quand les hommes de Royal viendraient me chercher, résisterais-je? Non. Je les suivrais avec dignité. Non. Je tuerai à main nue autant de ces spadassins de l'intérieur que possible. Non, je les accompagnerai sans rien dire, et j'attendrai l'occasion de tuer Royal. Il serait là, je le savais, pour me regarder mourir. La promesse faite à Subtil de ne pas m'en prendre à sa famille. Elle ne me liait plus. Si, personne ne pouvait me sauver. Je ne me demandais même plus si Imbre interviendrait, si Patience pouvait y faire quoi que ce soit. Une fois que Royal m'aurait arraché des aveux, me garderait-il en vie pour me faire pendre et écarteler en place publique? Oui, bien sûr. Pourquoi se priver de ce plaisir? Patience viendrait-elle me voir mourir? J'espérais que non. Peut-être Brodette saurait-elle l'en empêcher. J'avais jeté ma vie aux orties. Je m'étais sacrifié pour rien. Enfin, j'avais au moins tué Sereine et Justin. Cela en valait-il la peine? Ma reine s'était-elle échappée ou se cachait-elle encore entre les murs du château? Était-ce ce qu'Imbre cherchait à me communiquer? Non. Mon esprit pataugeait dans mes pensées comme un rat tombé dans une barrique d'eau de pluie. J'aurais voulu avoir quelqu'un, n'importe qui, à qui parler. Je m'efforçais de réfléchir calmement, rationnellement, et finis par trouver une prise. Œil de nuit. Il avait dit les avoir emmenés, les avoir guidés jusqu'à Burik. Mon frère, je me tendis vers lui. Je suis là, je suis toujours là. Raconte-moi l'autre nuit. Laquelle? Celle où tu as conduit les gens du château à cœur de la meute. Ah, Je sentis son effort. Il pensait à la manière des loups. Ce qui était fait. Il ne voyait pas plus loin que sa prochaine chasse, ne se rappelait presque rien des événements du mois ou de l'année précédent, sauf s'il concernait de très près sa survie. Ainsi, il se rappelait la cage d'où je l'avais tiré, mais il avait déjà oublié où il avait chassé 4 nuits plus tôt. Il gardait en mémoire des généralités, une sente que fréquentaient les lapins, une source qui ne gelait pas en hiver, mais le nombre précis de lapins qu'il avait tués 3 jours auparavant lui échappait complètement. Je retins mon souffle en souhaitant qu'il pût me rendre espoir. Je les ai conduits à cœur de la meute. J'aimerais que tu sois là. J'ai un piquant de porc épic dans la babine et je n'arrive pas à m'en débarrasser. Ça fait mal. Et comment est-il arrivé là? Malgré tout, je n'avais pu m'empêcher de sourire. Il savait à quoi s'en tenir, mais n'avait pu résister à l'attrait de la grosse et lente créature.
Ce n'est pas drôle.
Je sais. De fait, ce n'était pas drôle. Méchamment barbelé, le piquant ne pouvait que s'enfoncer en envenimant la plaie, au point d'empêcher Œil de Nuit de chasser. Je me penchais sur son problème car je le savais, tant que je ne l'aurais pas résolu, il ne parviendrait à se concentrer sur rien d'autre.
Cœur de la meute te l'enlèverait si tu le lui demandais poliment.
Tu peux avoir confiance en lui.
Il m'a poussé quand je lui ai parlé, mais ensuite il m'a parlé.
Ah ? Je perçus le cheminement de son esprit, qui remontait lentement le fil de ses pensées.
L'autre nuit, quand je les ai guidés jusqu'à lui, il m'a dit « Amène-les-moi ici, pas au trou du renardier. »
« Montre-moi l'endroit. » C'était plus difficile pour lui, mais il s'y efforça et se rappela le bord de la route, déserte sous les rafales de neige. Hormis Burique à cheval sur Rousseau et tenant suit par la bride. J'entrevis la femelle et le sans-odeur, comme il appelait Kétriken et le fou. Il se souvenait bien d'Imbre, surtout à cause d'un gros os de bœuf qu'il lui avait remis avant leur séparation.
Ont-ils parlé entre eux? Beaucoup trop. Je les ai laissés échapper entre eux et je suis parti.
J'eus beau l'interroger, il ne put m'en dire davantage. Mais au moins je savais que les plans avaient été radicalement modifiés à la dernière minute. Étrange. J'avais été prêt à donner ma vie pour Kétriken, mais, tout bien considéré, je n'étais pas sûr d'apprécier de donner ma jument. Et puis, je me rappelais que je ne monterais sans doute plus jamais un cheval, sauf celui qui me transporterait à l'arbre où l'on me pendrait. Au moins, Suisse se trouvait-elle avec quelqu'un que j'aimais, ainsi que Rousseau. Pourquoi ces 2 chevaux, précisément? Et pourquoi seulement 2? Burique avait-il été incapable d'en sortir davantage des écuries? Était-ce pour cela qu'il n'était pas parti?
« J'ai mal !» intervint Œil de Nuit. « Ça m'empêche de manger. »«
Je voudrais t'aider, mais c'est impossible. Tu dois demander à Cœur de la Meute. »«
Tu ne peux pas lui demander? Toi, il ne te pousse pas !»
Je souris. Il l'a fait une fois et ça m'a suffi. J'ai retenu la leçon. Mais si tu vas le trouver pour lui demander son aide, il ne te repoussera pas.
Tu ne peux pas lui demander de m'aider?
Je ne peux pas lui parler comme nous nous parlons, et il est trop loin pour entendre mes abois.
Alors, je vais essayer,
fit Œil de Nuit d'un ton dubitatif. Je le laissais aller. J'avais envisagé d'essayer de lui faire comprendre ma situation, mais j'avais renoncé. Il ne pouvait rien faire, et je n'arriverais qu'à l'inquiéter. Œil de Nuit dirait à Burique que je le lui avais envoyé. Ainsi Burique me serait-il toujours en vie. Je n'avais pas grand-chose d'autre à lui transmettre qu'il ne suit déjà. Le temps passa lentement. Je le mesurais par tous les petits moyens à ma disposition. La torche finit de se consumer. La garde fut relevée, quelqu'un me glissa de l'eau et de la nourriture par la trappe de ma porte. Je n'avais rien demandé. Cela signifiait-il qu'une longue période s'était écoulée depuis mon dernier repas? Les gardes furent à nouveau relevés. Les nouveaux, un homme et une femme, étaient bavards, mais ils parlaient à voix basse, et je ne percevais que leurs chuchotements indistincts et leurs éclats de rire. Sans doute quelques remarques grivoises qui pimentaient leur marivaudage. Ils s'interrompirent soudain. Quelqu'un arrivait. J'entendis des murmures bas et respectueux, et une boule de glace se forma au creux de mon estomac. Sans bruit, je me levai, me collai à la porte et jetai un coup d'œil au poste de garde. Il approchait comme une ombre dans le couloir, en silence, mais sans furtivité. Avec ses dehors effacés, il n'en avait nul besoin. Jamais je n'avais vu l'art ainsi employé. Je sentis les poils de ma nuque se hérisser lorsque Guillaume s'arrêta devant ma porte et me regarda. Il ne dit rien, et je n'osais pas ouvrir la bouche. Le simple fait de lui rendre son regard lui fournissait déjà une trop grande ouverture sur moi. Pourtant, je redoutais de détourner les yeux. L'art le nimbait comme une aura de vigilance. Je me fis tout petit au fond de moi-même, ramenai à moi toutes mes émotions, toutes mes pensées, et dressai mes murs aussi vite que je le pus, tout en sachant que ses protections mêmes lui en disaient long sur moi. Pour lui, mes défenses constituaient un moyen de me déchiffrer. Pendant que je sentais la peur me dessécher la bouche et la gorge, une question me vint. D'où sortait-il? Qu'est-ce qui pouvait avoir tant d'importance aux yeux de Royal pour qu'il confie le travail à Guillot au lieu de l'utiliser à s'assurer la couronne? Le pâteau blanc. La réponse était montée du tréfonds de moi, fondée sur des rapprochements si loin enfouis que j'étais incapable de les exhumer, mais je ne la mis pas en doute. Je le regardais en le considérant en conjonction avec le bateau blanc. Il fronça les sourcils, et je sentis la tension entre nous grandir, l'art forcé contre mes frontières. Il ne me griffait pas ni ne tiraillait comme l'avaient fait Sereine et Justin. La meilleure comparaison serait un affrontement à l'épée, où chacun mesure la puissance d'assaut de son adversaire. Je m'affermis pour lui résister, sachant que si je vacillais, si je baissais ma garde, fût-ce un instant, il passerait outre ma défense et m'embrocherait l'âme. Ses yeux s'agrandirent et j'eus la surprise d'y lire une brève hésitation. Mais il eut aussitôt un sourire aussi engageant que la gueule d'un requin. « Ah !» souffla-t-il. Il paraissait content. Il s'écarta de ma porte et s'étira comme un chat indolent. Ils t'ont sous-estimé, mais je ne commettrai pas la même erreur. Je sais bien l'avantage qu'on acquiert lorsque l'adversaire fait cette faute. Puis il partit, ni brusquement ni lentement, mais comme la fumée disparaît à la brise, là un instant, évanouit le suivant. Je retournai m'asseoir sur mon banc, pris une grande inspiration et la relâchai peu à peu pour apaiser mes tremblements. J'avais la sensation d'avoir passé une épreuve, et cette fois au moins, de l'avoir réussi. Je m'adossai à la pierre froide du mur et jetai un coup d'œil en direction de la porte. Sous les lourdes paupières, le regard de Guillaume me transperça. Je me redressai si violemment que ma blessure à la jambe se rouvrit. J'observai le Judas, rien, il avait disparu. Le cœur battant et malgré moi, je m'approchai de l'ouverture et scrutai le couloir. Je ne vis personne. Je ne parvins pas pour autant à me convaincre qu'il était parti. Je regagnai mon banc en boitant et me rassis en m'emmitouflant dans le manteau de Brondi. Je surveillai le Judas en quête d'un mouvement, d'une modification de la lumière ombreuse que projetait la torche, d'un signe quelconque qui trahit la présence de Guillot, mais ne décelait rien. J'avais envie de tendre mon art et mon vif pour voir si j'arrivais à le percevoir, mais je n'osais pas. Impossible de me risquer hors de moi-même sans laisser la voie libre à qui voulait m'atteindre. J'établis mes protections autour de mes pensées, puis recommençai quelques instants plus tard, pour plus de sûreté. Plus je m'efforçais au calme, plus l'effroi était violent quand il me saisissait. J'avais craint la torture physique, mais à présent la sueur aigre de la peur me ruisselait sur les côtes et le visage quand je songeais à tout ce que Guillot pourrait m'infliger s'il passait outre mes murailles. Une fois qu'il se trouverait dans ma tête, il m'obligerait à me présenter devant les ducs réunis pour leur narrer en détail comment j'avais tué le roi subtil. Royal avait inventé pour moi un sort pire qu'une simple exécution. J'irai à la mort, après m'être reconnu lâche et traître, et je me traînerai à ses pieds pour implorer publiquement son pardon. Il dut s'écouler une nuit. Je ne fermais pas l'œil, sinon pour m'assoupir, et me réveillais aussitôt en sursaut d'un rêve où des yeux me guettaient par le Judas. Je n'osais même pas chercher le réconfort d'un contact avec œil de nuit, et j'espérais qu'il s'en abstiendrait de son côté. Je sortis d'une de ces périodes d'assoupissement en tressaillant. J'avais cru entendre des bruits de pas dans le couloir. Les yeux me piquaient. J'avais la migraine à force de rester en alerte, et la tension me nouait les muscles. Je demeurais sans bouger sur mon banc pour conserver mes dernières forces. La porte s'ouvrit à la volée. Un garde avança une torche dans ma cellule, puis entra prudemment. Deux autres l'imitèrent. « Debout !» aboya l'homme à la torche. Il avait l'accent de Bouge. Inutile de refuser d'obéir, je me levai donc en laissant le manteau de Brondy retomber sur le banc. D'un signe du chef, les deux gardes m'encadrèrent. Quatre autres nous attendaient dans le couloir. Royal ne prenait pas de risques. Je ne connaissais aucun de ces hommes qui arboraient tous les couleurs de la garde de Royal. Rien qu'à leur expression, je sus les ordres qu'ils avaient reçus. Mais je ne leur fournis pas de prétexte pour les appliquer. Nous passâmes le poste de garde et entrâmes dans une pièce qui servait autrefois de corps de garde. On l'avait vidé de ses meubles, hormis un fauteuil confortable. Dans chaque applique brûlait une torche, et la salle baignait dans une lumière vive qui blessait mes yeux habitués à la pénombre. Les gardes me laissèrent debout au milieu de la salle et allèrent en rejoindre d'autres alignés le long des murs. Par habitude plus que par espoir, j'évaluai ma situation. Je comptais 14 gardes, ce qui me parut excessif, même pour moi. Les deux portes étaient closes. Nous restâmes sans bouger. Demeurer debout, immobile, dans une pièce crûment éclairée, entourée d'hommes hostiles, constitue une forme de torture méconnue. J'essayais de me détendre, de déplacer discrètement mon poids d'une jambe sur l'autre, mais je me fatiguais vite. Je fus effrayé de découvrir avec quelle rapidité la faim et l'inactivité m'avaient affaibli, et c'est presque avec soulagement que je vis la porte s'ouvrir enfin. Royal entra, suivi de Guillot qui protestait à mi-voix.
« Pas nécessaire, il me suffirait encore d'une nuit avec lui. »«
Je préfère ceci, » répliqua Royal d'un ton acide. Guillot s'inclina sans rien dire. Royal s'assit, et Guillot prit place derrière lui, à sa gauche. Le prince m'observa un instant, puis se laissa aller négligemment contre le dossier de son fauteuil, pencha la tête sur le côté et soupira. Puis, il leva l'index et désigna un homme.
« Toi, Penn, ne lui casse rien. Quand nous aurons ce que nous voulons, il faut qu'il soit présentable. »« C'est bien compris ?»
Avec un bref hochement de tête, Penn se débarrassa de son manteau d'hiver et de sa chemise. Les autres le regardaient avec des yeux de pierre. Un conseil qu'Ambre m'avait donné longtemps auparavant me revint.
« On peut tenir plus longtemps sous la torture si on se concentre sur ce qu'on veut dire plutôt que sur ce qu'on refuse de révéler. J'ai entendu des hommes répéter sans cesse la même phrase bien longtemps après qu'ils ne pouvaient plus entendre les questions. » En se focalisant sur ce qu'on accepte de dire, on a moins de chances de laisser échapper ce qu'on ne veut pas avouer.
Mais ce conseil tout théorique risquait de ne guère m'aider. Royal ne paraissait pas avoir de questions à poser. Penn était plus grand et plus lourd que moi, et il ne se nourrissait probablement pas que de pain et d'eau. Il pratiqua quelques exercices d'assouplissement, comme si nous allions participer à un concours de lutte de la fête du printemps. Je l'observais sans bouger. Il croisa mon regard, et un sourire étira ses lèvres minces, au point d'en être inexistante. Puis, il enfila une paire de mitaines en cuir. La séance n'était donc pas improvisée. Il s'inclina devant Royal qui hocha la tête.
« Que se passe-t-il »
« Tais-toi, » ordonnai-je à Œil de Nuit. Mais comme Penn s'avançait vers moi, je sentis ma lèvre supérieure se retrousser pour découvrir mes dents. J'évitais son premier coup de poing. Lui emportait un, puis reculait devant un moulinet. Je me déplaçais avec l'agilité du désespoir. Je n'avais pas prévu d'avoir une chance de me défendre, mais au contraire, de me faire torturer pieds et poings liés. Naturellement, il y aurait tout le temps d'y venir. Royal n'était pas pressé. Ne pas y penser. Je n'avais jamais été doué pour ce genre de combat. Ne pas y penser non plus. Le poing de Penn m'érafla la joue, y laissant une douleur cuisante. Prudence, prudence. Soudain, comme j'essayais de l'amener à ouvrir sa garde pour prendre sa mesure, l'art fondit sur moi. Je chancelai sous l'assaut de Guillot, et Penn me porta ses trois coups suivants sans effort, à la mâchoire, la poitrine et la pommette, tous rapides, francs et massifs. Le style d'un homme qui a beaucoup pratiqué, et le sourire d'un homme qui se fait plaisir. Suivit une période d'où le temps était absent. Je ne pouvais à la fois me protéger de Guillot et me défendre contre les coups de Penn, et après réflexion, si le terme est approprié dans l'état où je me trouvais, je parvins à la conclusion que mon corps disposait de ses propres moyens de défense contre la douleur physique, l'évanouissement ou la mort. Je décidai donc d'abriter mon esprit plutôt que mon corps. Je répugne à me rappeler ces instants. Contre les assauts de peine, ma parade toute symbolique consistait à les esquiver et à l'obliger à me poursuivre, à ne pas le quitter des yeux et à le bloquer tant que cela ne contrariait pas ma vigilance à l'égard de Guillot. J'entendis les gardes conspuer le prétendu manque de ressort que trahissaient mes faibles ripostes. Un coup me projeta, titubant, au milieu des soldats et ils me renvoyèrent sans ménagement face à mon adversaire. Je n'avais pas le temps d'établir une stratégie. Quand je répliquais, c'était à grands coups désordonnés et sans guère de force les rares fois où ils portaient. J'aurais voulu me laisser aller, libérer ma fureur et me jeter sur peine pour le cogner par tous les moyens possibles, mais ça aurait été ouvrir grand la porte à Guillot. Non, il me fallait garder mon sang-froid et rester stoïque. Comme Guillot augmentait sa pression sur moi, Penn voyait sa tâche s'alléger, et pour finir, je n'eus plus qu'une alternative. Me servir de mes bras pour me protéger la tête ou le corps. Dans l'un et l'autre cas, Penn se contentait de changer de cible. L'horreur de la situation était qu'il retenait ses coups, et que je le savais, il ne frappait que pour faire mal et m'infliger des dommages mineurs. Une fois, je baissai les bras et regardai Guillot en face. J'eus la très brève satisfaction de voir son visage ruisselant de transpiration. Puis, le point de peine s'écrasa sur mon nez. L'âme m'avait un jour décrit le bruit qu'il avait entendu quand il s'était fait casser le nez au cours d'une bagarre. Mais les mots ne rendaient pas justice au fait lui-même. Ce fut un bruit à lever le cœur, suivi d'une douleur insoutenable. Une souffrance si intense que je n'eus soudain plus conscience d'aucune autre. Je perdis connaissance. J'ignore combien de temps je demeurai évanoui à errer aux frontières du réveil. Quelqu'un m'avait retourné sur le dos, puis s'était redressé après m'avoir examiné.
« Là, le nez cassé !» annonça-t-il.
« Peine, j'avais dit de ne pas l'abîmer !» fit Royal avec colère. « Je dois pouvoir le montrer intact. Apporte-moi du vin !» ajouta-t-il d'un ton irrité à l'adresse de quelqu'un d'autre.
« Vous inquiétez pas, votre majesté !» répondit une autre voix.
Son propriétaire se pencha sur moi, agrippa fermement l'arête de mon nez et la remit en place. La douleur fut pire que lors de la fracture, et je sombrai à nouveau dans l'inconscience. J'entendis des voix parler de moi. Puis des mots s'en détachèrent, et enfin, le sens revint aux mots.
« Alors, que devrait-il faire, normalement ?»
La voix de Royal.
« Pourquoi ne l'a-t-il pas encore fait ?»«
Je sais seulement... « ce que m'ont dit Sereine et Justin, votre majesté. »
Guillot avait la voix lasse.
Il prétendait qu'il s'était épuisé à artiser et qu'alors Justin avait réussi à pénétrer en lui. À ce moment-là, le bâtard s'est défendu d'une façon incompréhensible. Justin a eu l'impression de se faire attaquer par un grand loup et Sereine affirmait qu'elle avait vu des marques de griffes sur lui, mais qu'elle s'était effacée peu après.
Un grincement. Royal venait de se rasseoir sans douceur dans son fauteuil.
« Eh bien, oblige-le à recommencer. Je voudrais voir de mes yeux ce vif à l'œuvre. »
Silence.
« À moins que tu ne sois pas assez fort, c'est peut-être Justin que j'aurais dû garder en réserve. »«
Je suis plus fort que ne l'était Justin, votre majesté, » assura Guillot avec calme. « Mais Fitz, c'est ce que je recherche, alors qu'il ne s'attendait pas à l'attaque de Justin. » Plus bas, il ajouta, « Et il est beaucoup plus fort qu'on ne me l'avait laissé croire. »«
Fais ce qu'il faut, c'est tout !»
ordonna Royal d'un ton exaspéré. Ainsi, Royal voulait un aperçu du vif. Je pris mon souffle, rassemblai le peu de force qui me restait et m'efforçai de concentrer ma colère sur lui afin de le repousser avec assez de violence pour lui faire traverser le mur. Mais je n'arrivais à rien.
J'étais trop perclus de douleur pour me concentrer, et mes propres murailles m'empêchaient d'agir. Il se contenta de sursauter, puis il me regarda de plus près.
« Il est réveillé !»
Il leva de nouveau l'index d'un air nonchalant.
« Verdé, il est à toi, mais fais attention à son nez. Ne touche pas sa figure. Le reste de sa personne, on peut facilement le dissimuler. »
Verdé entreprit de me mettre debout, puis de me jeter à terre à coups de poing. Je me lassais de ce jeu longtemps avant lui. Le sol m'infligeait autant de dégâts que ses poings. Je n'arrivais pas à me tenir droit, ni à lever les bras pour me protéger. Aussi, me renfonçais-je en moi, en me faisant de plus en plus petit, et je demeurais ainsi tapi jusqu'à ce que la souffrance me force à ressortir de moi-même et à me battre, en général, juste avant que je perde connaissance. Je remarquai autre chose, le plaisir de Royal. Il ne voulait pas me ligoter et me faire mal, il voulait me voir me débattre, essayer en vain de rendre les coups. Il surveillait aussi ses gardes, sans doute pour repérer ceux qui détournaient les yeux de son divertissement. Il se servait de moi pour prendre leurs mesures. J'essayais de rester indifférent à sa délectation, seul comptait de maintenir mes murailles dressées et d'empêcher Guillot d'entrer dans ma tête. Telle était la bataille que je devais remporter. Quand je me réveillais pour la quatrième fois, j'étais étendu par terre dans ma cellule. C'était un bruit effrayant, à la fois gargouillant et sifflant, qui m'avait tiré de l'inconscience, le bruit de ma respiration. Je demeurai quelque temps sans bouger, puis je levai la main et, à tâtons, tirai le manteau de Brondy qui tomba en me recouvrant partiellement. Après quoi, je restai immobile. Les gardes avaient suivi les consignes de Royal. Je n'avais rien de cassé. J'avais mal partout, mais mes os étaient intacts. Ils ne m'avaient infligé que de la souffrance. Je ne risquais pas de mourir. Je m'approchai en rampant du pot d'eau. Je ne décrirai pas le supplice que j'endurais à le soulever pour boire. Mes tentatives, en début de séance pour me défendre, m'avaient laissé les mains enflées et cuisantes, et c'est en vain que je m'efforçais d'empêcher le bord du pot de cogner contre mes lèvres. Mais je réussis finalement à me désaltérer. L'eau me rendit quelque vigueur, et me rendit encore plus sensible à la multiplicité de mes douleurs. Ma demi-miche de pain se trouvait là, elle aussi. J'en plongeai le bout dans l'eau restante, puis suçai le pain ramolli. Il avait goût de sang. Les coups de peine m'avaient déchaussé des dents et ouvert les lèvres. Mon nez, lui, n'était plus qu'une vaste zone qui m'élançait sans cesse, et je ne pus me résoudre à le palper. Manger ne me procura nul plaisir, seulement un soulagement partiel de la faim qui s'ajoutait à mes tourments. Au bout de quelque temps, je me redressai. Assis par terre, je m'emmitouflai dans le manteau et réfléchis à ce qui m'attendait. Royal avait l'intention de me rouer de coups jusqu'à ce que je manifeste le vif par une attaque dont ses gardes seraient témoins ou que j'abaisse assez mes murailles pour que Guillot puisse pénétrer dans mon esprit et m'oblige à me confesser. Je me demandais par laquelle de ces solutions il préférerait l'emporter, car il l'emporterait, je n'en doutais pas. La mort constituait pour moi le seul moyen de m'échapper de ma cellule. Quelle possibilité avais-je pour cela? Les obliger à me tuer de coups avant que j'utilise le vif ou que j'ouvre mes barrières à Guillot, ou bien absorber le poison que j'avais préparé pour Murfès. J'en mourrais, c'était certain. Dans l'état d'affaiblissement où je me trouvais, l'effet serait probablement plus rapide que je ne l'avais prévu, mais encore douloureux, épouvantablement douloureux. Les souffrances se valaient. Laborieusement, je retroussai ma manche droite encroûtée de sang. La pochette ne tenait que par un fil qui devait casser à la moindre traction, mais le sang l'avait collé au tissu de ma chemise. Je tirai dessus avec délicatesse. Il ne s'agissait pas de répandre le produit par terre. Et j'allais devoir attendre qu'on m'apporte de l'eau pour le délayer, sans quoi je n'arriverais qu'à m'étouffer sur la poudre amère. J'essayais encore de décrocher la pochette quand j'entendis des voix dans le couloir. Non, c'était trop injuste. Pourquoi revenait-il si tôt? Je tendis l'oreille. Ce n'était pas Royal. Mais si l'on venait au cachot, ce ne pouvait être que pour moi. Une voix grave grondante, mais qui semblait mal maîtrisée. Les gardes qui répondaient laconiquement d'un ton hostile, une autre voix raisonnable celle-ci qui intercédait. Puis, à nouveau la voix grondante qui montait, manifestait belliqueuse. Soudain un cri.
« Tu vas crever, Fitz! On va te pendre au-dessus de l'eau, et on va brûler ton cadavre !»
C'était la voix de Burick. Étrange mélange de colère, de menace et de chagrin.
« Emmenez-le !»
Une des gardes qui s'exprimait à présent de façon audible. À son accent, elle était de l'intérieur.
« Je m'en occupe. »
Je connaissais cette voix. C'était celle de l'âme. « Il a un peu trop bu, c'est tout. Il a toujours été comme ça. Et le gosse a été son apprenti pendant des années aux écuries. Tout le monde dit qu'il aurait dû se douter de quelque chose, et même qu'il savait, mais qu'il n'a rien fait.
« Ouais !»
intervint Burick d'un ton furieux.
« Et maintenant, j'ai plus de boulot, bâtard ! Fini le blason au cerf pour moi ! Mais ça m'est bien égal, par le cul d'elle. Il n'y a plus de chevaux. Les meilleurs chevaux que j'avais dressés, ils sont tous dans l'intérieur maintenant. Vendus à des crétins pour une bouchée de pain ! Plus de chiens, plus de faucons ! Reste plus que des avortons et deux ou trois mulets ! Pas un seul cheval digne de ce nom !»
Il s'approchait tout en parlant, et il y avait de la folie dans sa voix. Je me redressais en m'appuyant à la porte, puis m'accrochais au barreau. Je ne voyais pas le poste des gardes, mais leur ombre dansait sur le mur. Celle de Burick essayait de se diriger vers ma cellule, tandis que les gardes et l'âme tentaient de le retenir.
« Tendez ! Noir ! Tendez une minute !»
fit Burick d'un ton ivrogne.
« Écoutez, je veux juste lui parler, c'est tout !»
Le groupe apparut dans le couloir, s'arrêta de nouveau. Les gardes se tenaient entre Burick et ma porte, et l'âme lui avait pris l'épaule. Il portait encore des marques de bagarre sur le visage, et un de ses bras était dans une attelle. Il ne pouvait pas faire grand-chose pour empêcher Burick d'avancer.
« Je veux juste ma revanche, avant que Royal prenne la sienne, c'est tout, c'est tout !»
L'alcool faisait bredouiller Burick.
« Allez quoi ? Rien qu'une minute ! Qu'est-ce que ça peut faire, de toute façon ? C'est un homme mort !»
Un silence.
« Tiens, regardez, comme ça, vous aurez pas perdu votre temps. Tiens !»
Les gardes échangèrent des regards.
« L'âme, il te resterait pas un peu d'argent ?»
Burry fouilla dans sa besace, eut un grognement agacé et la retourna au-dessus de sa main. Des pièces tombèrent en pluie dans sa paume et roulèrent entre ses doigts.
« Venez ! Prenez !»
J'entendis le tintement des pièces qui roulaient sur les pierres du couloir, et Burry couvrit les bras dans un geste de munificence.
« Eh, il rigole ! Burick !» N'essaie pas de soudoyer les gardes, ou tu vas te retrouver au trou, toi aussi. »
L'âme se baissa vivement et se répandit en excuses tout en ramassant les pièces. Les gardes l'aidèrent, et j'aperçus une main faire furtivement l'aller-retour entre le sol et une poche. Soudain, le visage de Burick apparut au judas. L'espace d'un instant, nous restâmes face à face de part et d'autre des barreaux. Ses traits reflétaient à la fois la peine et l'indignation. Ses yeux étaient injectés de sang, et son haleine empestait l'alcool. Sa chemise était déchirée là où le blason au cerf avait été arraché. Son expression furieuse fit place, lorsqu'il me distingua mieux, au bouleversement. Je soutins son regard, et l'espace d'un instant je crus sentir passer entre nous un message de compréhension et d'adieu. Puis, il recula, et me cracha en plein visage.
« Ça !» « C'est pour toi »
gronda-t-il.
« Et pour la vie que tu m'as volée, toutes les heures, tous les jours que j'ai passé à m'occuper de toi. Il aurait mieux valu que tu te couches au milieu des bêtes et que tu meurs avant d'en arriver là. On va te pendre, petit. Royal est en train de faire construire le gibet au-dessus de l'eau, comme le veut la tradition. On va te pendre, puis te couper en morceaux et te brûler. » Il ne restera rien à enterrer. Il a sans doute peur que les chiades te déterrent. Ça te plairait, ça, hein, petit, de faire enfouir comme un os pour qu'un chien vienne te chercher plus tard. Mieux vaut t'allonger par terre et mourir là où tu es.
Je m'étais écarté de lui quand il m'avait craché au visage. À présent, loin de la porte, je chancelais, tandis qu'accroché au barreau, il me regardait fixement, les yeux agrandis et brillants de folie et de boisson.
« Puisque tu es si doué pour le vif à ce qu'il paraît, pourquoi tu ne te changes pas en rat pour te tirer d'ici, hein ?»
Il appuya le front contre les barreaux et, sans me quitter des yeux, ajouta d'un ton presque pensif.
« Mieux vaut ça que finir pendu, mon chiot. Change-toi en bête et sauve-toi la queue entre les jambes. Si tu peux, je l'ai entendu dire, raconte que tu peux te transformer en loup. Eh bien, si tu n'en es pas capable, la corde est pour toi. La corde qui t'étrangle pendant que tu donnes des coups de pied dans le vide. »
Sa voix mourut. Ses yeux noirs plongèrent dans les miens. L'alcool les faisait pleurer.
« Mieux vaut que tu crèves ici que pendu !»
Soudain, la rage parut l'envahir.
« Pourrais bien t'aider à crever ici, moi »
fit-il les dents serrées.
« Mieux vaut que tu meurs à ma façon qu'à celle de Royal !»
Et les mains autour des barreaux, il se mit à secouer violemment la porte. Les gardes intervinrent aussitôt en jurant et s'efforcèrent de le tirer en arrière, mais il ne leur prêta nulle attention. Le vieux Lame sautillait sur place derrière eux en plaidant.
« Allez, laisse tomber, Burick. Tu as dit ce que tu voulais dire. On s'en va maintenant. On s'en va avant d'avoir des ennuis, camarades. »
Les gars n'arrivèrent pas à l'arracher à la porte. Il lâcha brusquement prise et laissa tomber ses bras le long de son corps. Et les hommes, surpris, partirent à la renverse en l'entraînant dans leur chute. Je pressai mon visage contre les barreaux.
« Burick. »
J'avais du mal à articuler.
Je ne voulais pas te faire de mal. Je regrette.
Je pris une inspiration en cherchant des mots qui soulageraient le tourment que je lisais dans ses yeux.
On ne peut rien te reprocher. Tu as fait ce que tu pouvais avec moi.
Il secoua la tête, le visage tordu de douleur et de colère.
Allonge-toi et crève, petit, crève, c'est tout.
Et il s'en alla. Lame le suivit à reculons en bafouillant des excuses aux gardes exaspérés qui les escortaient dans le couloir. Je les regardais s'éloigner, puis je vis l'ombre de Burick disparaître avec force embardée tandis que Lame s'attardait pour adoucir l'humeur des gardes. J'essuyai le crachat de mon visage et regagnai lentement mon banc. J'y restai longtemps assis à ressasser des souvenirs. Depuis toujours, il m'avait prévenu contre le vif. Il m'avait enlevé le premier chien avec lequel je m'étais lié, et j'avais eu beau lutter, le repousser avec toute l'énergie dont je disposais, il m'avait simplement renvoyé mon attaque. Si durement que pendant des années, je n'avais plus osé repousser quiconque. Et le jour où il s'était assoupli, où il avait sinon accepté, du moins feint de ne pas connaître mon lien avec le loup, le vif lui avait été de nouveau imposé. Le vif. Il m'avait mis en garde tant de fois, et moi j'étais persuadé de savoir ce que je faisais.
Et tu avais raison.
Œil de nuit. Je n'avais pas le courage de répondre davantage.
Viens avec moi. Viens avec moi, et nous chasserons ensemble. Je peux t'emmener loin de là où tu es.
Plus tard, peut-être. La force me manquait de discuter. Je restais longtemps sans bouger. Mon entrevue avec Burick m'avait fait aussi mal que la rossée de peine. Je cherchais dans ma vie une personne à qui je n'eusse pas fait défaut, que je n'eusse pas déçu. Je n'en trouvais pas. Je baissai les yeux sur le manteau de brondier étalé par terre. Le froid me poussait à m'y emmitoufler, mais j'avais trop mal pour le ramasser. Mon regard tomba soudain sur un caillou posé à côté. C'était étrange. J'avais suffisamment contemplé le sol pour savoir qu'il ne s'y trouvait rien. La force de la curiosité est remarquablement puissante. Je finis par me pencher et je pris le manteau et le caillou. Il me fallut un peu de temps pour passer le vêtement sur mes épaules, après quoi j'examinai la pierre. Ce n'en était pas une. Noire et humide, l'objet évoquait une boulette de feuilles. Oui, une boulette qui m'avait heurté le menton quand Burick m'avait craché au visage. Délicatement, je la plaçai dans la maigre lumière qui passait par le judas. Une tige blanche maintenait la feuille extérieure fermée. Je la retirai. c'était l'extrémité d'un piquant de porc-épic, dont l'autre, noir et barbelé, servait à clore le petit paquet. Ouverte, la feuille révéla une boulette brune et collante, que je reniflai prudemment. C'était un mélange de plusieurs plantes, dont l'une dominait. Je la reconnus avec une sensation de nausée, du carim, un simple des montagnes, sédatif et analgésique puissant qu'on employait parfois pour mettre un terme miséricordieux à l'existence. Ketriken s'en était servi pour tenter de me tuer lors de son mariage.
« Viens avec moi !»«
Pas tout de suite. » Était-ce un cadeau d'adieu de Burik ? Une mort paisible. Je songeais à ce qu'il m'avait dit. Mieux vaut crever sur place. Une telle déclaration de la part d'un homme pour qui le combat n'est fini que lorsque l'on a gagné. La contradiction était excessive.
« Cœur de la meute dit que tu dois aller avec moi, maintenant, ce soir. Il dit, couche-toi, il dit, sois un os, qu'un chien déterrera plus tard. »
Je sentais l'effort que devait fournir Œil de Nuit pour transmettre ce message. Je réfléchis sans répondre.
« Il a ôté le piquant de ma babine, mon frère. Je crois que nous pouvons lui faire confiance. Viens avec moi, vite !»
J'observais les trois objets au creux de ma paume. La feuille, le piquant, la boulette. Je reformais le petit paquet tel que je l'avais reçu.
« Je ne comprends pas ce qu'il attend de moi, » dis-je. « Allonge-toi et ne bouge plus. Reste immobile et viens avec moi. Deviens moi. »
Un long silence. Œil de Nuit travaillait à exprimer une pensée.
« Ne mange ce qu'il t'a donné que si tu ne peux pas faire autrement, que si tu ne peux pas me rejoindre sans aide. »
Je n'ai aucune idée de ce qu'il veut, mais comme toi, je pense que nous pouvons lui faire confiance. Dans la pénombre, au-delà de l'épuisement, je me redressai sur le banc et m'affairai à ouvrir la pochette de ma manche. Quand ce fut fait, j'en tirai la petite papillote de poudre, la remplaçai par la boulette enveloppée de sa feuille et la fixai en place grâce au piquant. Je regardai la papillote posée dans ma main. Une idée naquit en moi, mais je refusais de m'y appesantir. Je serrai le manteau de Brondi autour de moi et m'allongeai lentement sur le banc. Je devais rester vigilant, je le savais, au cas où Guillot reviendrait, mais j'étais trop las et trop désespéré.
« Je suis avec toi, Œil de Nuit. »
Nous nous enfuîmes ensemble sur la neige blanche et glacée dans un monde de loups.